Il est 16h sur Campus FM 100.6.
Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Une émission de bande dessinée présentée par Patrick Pinchard. La technique aujourd'hui, Michel Campus, dont toute la dextérité sera nécessaire pour cette première d'une série de 5 émissions exceptionnelles pour fêter le 75e anniversaire d'un des êtres les plus attachants et qui reste sans doute l'un des auteurs les plus jeunes d'esprit malgré le nombre de bougies qui ont dû orner hier son gâteau d'anniversaire, j'ai nommé Hergé. 22 mai 1907, 22 mai 1982, trois quarts de siècle qui lui ont permis d'inventer la bande dessinée, mais surtout de s'attirer beaucoup d'amis dont une flopée viendront lui rendre hommage durant ces 5 semaines. Je vous laisserai le plaisir de le découvrir, certains en direct, d'autres enregistrés, mais tous présents sur les ondes pour rendre hommage à Hergé et aussi, je crois, pour se faire plaisir en parlant avec tendresse et passion de quelqu'un qu'ils aiment beaucoup. Pour ces 2 premières heures, j'ai choisi de retracer la vie d'Hergé en compagnie de 2 personnes qui le côtoient depuis longtemps. Alain Baran, secrétaire inestimable, attaché de presse et véritable point de liaison avec Hergé, et Bob Demours, compagnon des premières heures des studios Hergé et ami d'Hergé depuis belle lurette. Alain et Bob, merci d'être venus pour cette première émission, cette émission d'essai peut-être pour cette série d'hommage à Hergé. Je voudrais avant de commencer vous lire un petit texte que j'ai reçu dans le courant de la semaine qui s'appelle « Objectif Hergé ». Un jour peut-être les amateurs de bandes dessinées et de voyages interplanétaires pourront-ils se vanter d'avoir marché sur Hergé. En effet, Hergé est depuis peu le nom d'une petite planète située quelque part entre Mars et Jupiter. Ainsi en a décidé la Société belge d'expression flamande pour l'astronomie, qui a tenu à rendre hommage au créateur de Tintin, lequel fêtera son 75e anniversaire le 22 mai prochain. C'est pas mal comme cadeau d'anniversaire, hein ?
Oui, voilà donc Hergé devenu une étoile.
Oui.
Hergé se promène dans l'espace maintenant.
Voilà.
Est-ce qu'il est déjà au courant ?
Pardon ?
Est-ce qu'il est déjà au courant de cette nouvelle ?
Oui, il est au courant, oui.
Est-ce qu'il est parti en vacances, je crois, pour le moment ?
Oui, il devait se remettre cette nouvelle.
Il est en orbite, sans doute.
Il était en orbite pour le moment, oui.
Comment se fait-il que tout à coup on ait songé à donner le nom d'une étoile à Hergé ?
Ça, je crois qu'il faut poser la question à ceux qui ont décidé la chose.
Oui.
Alors, on va essayer aujourd'hui de retracer toute la vie d'Hergé. Ce sera donc une étude biographique aujourd'hui. On va donc commencer classiquement et banalement par l'enfance, avec une question peut-être stupide. Est-ce que Hergé correspondait au type du mauvais élève qui dessine dans les marges de ses cahiers, comme le veut la coutume et le cliché du dessinateur de bande dessinée ?
Mais Hergé était un excellent élève. Il était même... la plupart du temps premier, sinon pas le premier dans les premiers de sa classe. C'était donc un excellent élève, mais qui avait l'habitude de dessiner effectivement dans ses cahiers.
Oui, comme tous les dessinateurs, je crois, de futurs de bande dessinée, ils ont tous fait ça.
Mais un enfant insupportable en même temps.
Oui. Enfin bon, heureusement qu'on n'a pas vécu ça.
Oui. Mais d'ailleurs, c'est... Enfin, il le dit lui-même, c'est peut-être de là qu'est née sa vocation pour le dessin, parce que je dis donc enfant insupportable. Il paraît que lorsqu'il accompagnait ses parents en visite chez des amis ou dans la famille, il était si insupportable qu'il y avait deux méthodes. La première méthode consistait à lui donner une fessée préventive, mais il l'avoue lui-même, il en a eu deux, trois dans sa vie. Et la seconde méthode, mais qui est donc la méthode qui a, semble-t-il, porté ses fruits, était d'emporter un crayon et du papier. Et comme ça, alors, il était tout à fait tranquille, il laissait les grandes personnes, les adultes parler entre eux, et il dessinait. Voilà, ses débuts dans le dessin donc remontent à sa toute prime enfance.
Je voulais aborder les différentes influences qui ont mené au phénomène Hergé, et justement les parents, c'est donc un premier argument en leur faveur. J'ai lu dans Tintin et moi, qui est un merveilleux livre de Numa Sadoul, Hergé parle souvent de son père. Et je crois, Bob, que le père de Hergé venait souvent au studio Hergé.
Oui, je l'ai bien connu.
Pendant quel personnage était le père d'Hergé?
Mais le père d'Hergé, c'était un monsieur un peu d'une autre époque. Toujours bien habillé, chic, comme on dit. Et il a fait beaucoup d'humour. Et qu'est-ce que je pourrais encore dire?
Alexis Rémy,
et puis il était soucieux, bien sûr, comme tous les parents, comme tous les pères, je crois, ce que son fils faisait. Et c'était curieux d'ailleurs, que parce qu'il venait tous les jours au studio Hergé depuis que je suis là, jusqu'à sa mort, jusqu'au mort de M. Rémy, comme je l'appelais toujours. Et bon, il était dans le bain, quoi, parce qu'il... mais il ne se mêlait pas beaucoup des choses déjà. Ce qu'il faisait au fond au studio, c'était de rassembler la documentation.
C'était un archiviste.
Un archiviste, oui, il faisait ça très bien. Alors aussi, il était dans mon bureau, il était avec moi dans mon bureau. Et de temps en temps, il parlait de son fils. Et parfois, il disait, quand il voyait que les travaux n'avançaient pas vite, alors il disait, oh, ça c'est embêtant, qu'est-ce que l'éditeur va dire. Et tout ça, il faisait des réflexions comme ça, très gentiment. Donc je crois que pour lui c'était un plaisir d'être là. Il était pensionné, après sa pension.
Il est toujours présent d'ailleurs.
Il était,
son
oui,
nom,
hein, oui, son nom figure plaquette. Toujours sur la porte de mon bureau. Alexis Rémy, Bob de Moore.
Autre personnage qui est une influence, mais elle est quand même moins agréable, c'était le patron du père de Hergé, puisque celui-ci avait insisté pour qu'on retire Hergé de l'Athénée pour le mettre dans une école avec Dieu, et l'a retiré des scouts belges pour le mettre
catholique,
dans les scouts catholiques. Ce qui fait grâce à lui, maintenant, Hergé s'est accolé une image de chrétien absolu.
Maintenant, je ne sais pas si cette image le poursuivre... C'est peut-être un grand mot, si cette image est toujours présente. Effectivement, elle a joué un rôle très important dans sa vie, dans le démarrage de sa carrière, ça oui. Puisqu'il est arrivé, enfin ça on en parlera tout à l'heure, il est arrivé au XXe siècle, qui était dirigé par un abbé, l'abbé Wallet.
Alors ces scouts catholiques ont beaucoup influencé Hergé, je crois que c'est là le départ de sa carrière.
Bien sûr. Je crois que c'est le scoutisme en général, peut-être, appelons-le le scoutisme catholique, mais le scoutisme, cette règle de vie qui l'a beaucoup influencé, ça oui, certainement.
Ses débuts dans la bande dessinée, c'est grâce au scoutisme qu'il les donne.
C'est grâce au scoutisme et d'abord donc à ses cahiers d'école, où déjà il ne faisait pas des dessins comme la plupart des enfants le font. Quand ils dessinent dans leur cahier, des dessins anarchiques. Non, il racontait déjà des histoires. Il se racontait à lui des histoires dans ses cahiers. C'est toujours horizontalement, au bas de la page, il se racontait une histoire. Par exemple, il était à l'école pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, le premier personnage, son véritable premier personnage, était un petit garçon, je crois, qui jouait des blagues à l'occupant. C'est véritablement sa première histoire dessinée, hein, je pense.
Oui, oui.
Et puis il y a eu Totor.
Il y a oui, Totor. Alors Totor. Là, c'était effectivement pour le Boy Scout belge. Mais ce n'était pas encore véritablement de la bande dessinée, puisqu'il s'agissait de dessins humoristiques avec des légendes. Et parfois, il se hasardait à introduire un point d'interrogation ou quelques étoiles signifiant que le personnage avait reçu un coup ou quelque chose, en fait, qu'il était assommé, mais ce n'était pas encore véritablement de la bande dessinée. C'était donc...
Mais je crois que c'était un peu la mode à ce moment-là.
C'était la mode, bien sûr, oui.
Autre influence qu'on remarque justement notre auteur, c'est l'influence du cinéma. Puisque Hergé signait Hergé Moving Pictures.
Oui, c'est ça, ça a dû l'impressionner. Hein, c'est...
Oui,
et puis
il
dessinait...
Grande...
Oui. Il dessinait des choses qu'il connaissait bien, quoi. Enfin, puisqu'il était scout, c'était normal, c'était logique.
C'était la grande aventure, la grande découverte.
Et le cinéma,
bien sûr.
Oui. Hein.
Et alors, dernière influence, je crois, c'est la ville où Hergé vivait. Bruxelles.
Où vivait-il?
Oui, je sais pas.
Oui, Bruxelles, bien sûr.
Bruxelles, oui. New York, Washington, je sais pas.
Il a tellement voyagé, cet homme.
On va entendre... une interview d'Hergé, Hergé interviewé par Michel Cédric. Il va parler de ses débuts au journal Le XXe siècle, et puis Hergé interviewé par Stéphane Steyman, où il parlera des influences qu'il a subies à l'époque.
XXe siècle, oui. Le journal Le XXe siècle, c'était d'abord comme employé, non? Juste
d'abord
après
comme
le collège.
Employé, d'abord comme employé. Et puis alors, j'ai fait mon service militaire après ça, et je suis rentré après au XXe siècle, mais avec d'autres attributions à ce moment-là. On souhaitait que je devienne reporter photographe, et en même temps photograveur, c'est-à-dire qu'on aurait eu là sous la main, si j'avais été doué des qualités qu'on attendait de moi, on aurait eu ça là sous la main, quelqu'un qui, par exemple, aurait pu partir le dimanche après-midi voir un match de football, rentrer, faire les clichés, et hop, le soir, ça apparaissait dans l'édition du soir. Mais j'ai bien appris la photogravure, mais jamais la photographie. On m'a collé un appareil qui datait à peu près du temps de Nadar entre les mains, quelque chose qui... et je n'ai jamais pu m'en servir. Voilà, mes essais donc de reporter, photographe, se sont limités là. Et alors, un jour, le directeur du XXe siècle a eu l'idée de accroître son tirage, qui devait être tout de suite de 10 000 par jour, je crois, ou un peu moins, a eu l'idée donc de lancer un supplément pour la jeunesse. Et comme il savait que je dessinotais par-ci, par-là pour des revues, notamment pour le Boy Scout belge, il m'a dit « c'est vous qui allez vous en charger ». Stupéfaction générale. Et puis voilà, je m'en suis occupé. Et donc, ce petit bonhomme est né vraiment, presque sans réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce qui sera facile à dessiner? J'ai fait un rond, je mets un petit accent là au-dessus pour la petite mèche. Et puis, comme ça, au moins, j'avais des chances de le réussir. Enfin, qu'on le reconnaisse à chaque dessin, à peu près. Et donc, ça s'est fait comme ça, très légèrement, et sans penser du tout à ce qui pourrait suivre.
Mais il y a une grande différence entre Totor, CP des hannetons, et Tintin et Milou, parce que Totor, c'était, si je me souviens bien,
oui,
c'était du texte illustré,
oui,
tandis
vrai,
que l'autre,
pas,
c'était
vrai,
de la bande dessinée.
Oui, vraiment. Oui, oui, entre...
Et ça, c'était rare à l'époque.
Oui, c'est-à-dire entre les deux, j'avais fait la connaissance des comics américains. Voilà, tout simplement ça. Avant, j'en étais resté, moi, à Bécassine, et enfin, ce genre de récits illustrés ou d'illustrations commentées, ça dépend comment on regarde. Et alors j'ai vu, par l'intermédiaire de journaux mexicains qui reproduisaient des comics américains, j'ai découvert pour moi la bande dessinée, la vraie bande dessinée, avec donc texte, dialogue plutôt, et dessins mêlés.
Vous n'osez pas dire par l'intermédiaire de qui vous avez découvert la bande dessinée, Hergé.
Ah, si j'ose le dire. Enfin, je ne pensais pas à le dire. Il se faisait qu'à l'époque... où je travaillais au XXe siècle, il y avait également un collaborateur de ce journal qui s'appelait Léon de Grelle. Et Léon de Grelle était parti en reportage au Mexique, si mes souvenirs... Je crois que c'est bien comme ça, au Mexique, où, après ce qu'on m'avait raconté, il s'était trouvé devant une alternative, ou bien assassiner le président en titre, je ne sais plus quel était son nom, ou bien épouser sa fille. Enfin, il a dû choisir, il n'a fait, semble-t-il, ni l'un ni l'autre. Et donc lui a envoyé ses reportages paru dans les journaux mexicains, je ne sais pas moi. En tout cas, je sais que j'ai reçu des journaux mexicains par cette voie-là. Vous voyez qu'il n'y a rien de secret.
Enfin, ce qui était important, c'est qu'il y ait des bandes dessinées dans ces journaux mexicains.
Oui, et alors, voilà, j'ai trouvé ça, ça a été une véritable révélation pour moi.
Si je devais commencer aujourd'hui, ce qui se passerait la même chose.
Je me suis posé cette question, effectivement, et je trouve que ce serait beaucoup plus difficile maintenant. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu énormément de chance d'arriver à une époque où il n'y avait rien en bande dessinée. En Belgique, je m'entends, en France, il y avait Alain Saint-Augan. Je ne parle pas de Ziggy, je ne parle pas des trois... Les péniclés, je ne parle pas de Pinchon avec des Cassines, car ce n'était pas de la bande dessinée vraiment, c'était des textes illustrés ou des dessins soulignés par un texte. Mais comme bande dessinée, il n'existait en France que Alain Saint-Augan. En Belgique, il n'y avait rien et j'ai eu la chance d'arriver avec un langage nouveau, effectivement, en 1929, et d'avoir une tribune tout de suite. Ça a été accepté parce que on venait de créer le petit 20e et qu'il n'y avait pas d'autres dessinateurs. J'étais là que j'ai commencé à dessiner là-dedans. Donc c'est une grande
chance. À cause de vous, vous savez que les brochures du petit 20e qui sont très minces.
Oui, très minces, oui.
Quel est le prix de vente à votre avis?
Ben, je n'en sais rien.
100 francs.
Non, c'est vrai.
Oui, un petit machin c'est comme ça. Uniquement ça valait, parce qu'il y a vos histoires.
Ça valait 25 centimes à l'époque, oui. Le journal, non?
Le journal était le 20e siècle?
Moi, je ne l'ai pas connu, parce qu'à l'époque, je ne lisais pas le français. Et ce n'est qu'après que j'ai entendu parler du 20e siècle, par bribes, comme ça. Bon, c'était un journal catholique, ça je
Grand
sais.
Grand quotidien, je pense.
Grand quotidien, oui.
Le tirage moyen était de 10 000 exemplaires par jour, ce qui à l'époque devait être assez considérable.
Le directeur, l'abbé Wallet, je l'ai vu quelques fois. Quand j'ai commencé à travailler avec Hergé, il venait de temps en temps là, chez Hergé, en visite. Et je dois dire que c'était un personnage impressionnant. Moi, j'avais 22 ans, 23 ans. Et de temps en temps, il montait dans le studio où on travaillait. Et il allait se mettre derrière moi. Je sentais la présence de ce monsieur, de ce curé, cet abbé derrière moi. Et puis, à ce moment-là, j'ai dessiné l'histoire de Coril Mousseillon, qui se battait contre les Espagnols. Et ça, il n'aimait pas du tout. Et il me disait, Monsieur de Moor, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Parce que c'est grâce aux Espagnols qui ont sauvé la chrétienté, et patati et patata. Alors, j'étais mal à l'aise. Mais bon, c'est tout ce que je sais de l'abbé Wallet. Je savais qu'il était le patron. Oui, il est très autoritaire. Et je savais, bon, à ce moment-là, qu'il était le patron, qu'il avait été le patron des Hergé. Voilà, je l'ai vu deux, trois fois chez Hergé.
Alain, tu n'as jamais eu l'occasion de lire le 20e siècle?
Jamais, non.
On l'a lu après, hein. Bon, on l'a lu maintenant, de temps en temps, dans les recueils qu'on a au studio, mais, enfin, personnellement, je ne l'ai jamais connu à l'époque.
Nous avons surtout les suppléments, donc le petit 20e, enfin, ça, on en parlera aussi tout à l'heure.
Oui, avant de créer ce petit 20e, Hergé a dessiné les aventures de Flup, Nénès, Poussette et Cochonneuse.
Il faut d'abord dire que Hergé était engagé au XXe siècle au service des abonnements, qui est donc très différent de ce qu'il est devenu ensuite. Effectivement, il a dessiné, il a illustré un récit qui s'appelait, je ne vais pas le répéter, dont le scénariste était un certain De Smet. Mais franchement parlé, Hergé n'aimait pas du tout ce travail. D'ailleurs, la preuve est qu'il a toujours fait ses scénarios et ses dessins lui-même. Et le fait d'illustrer un scénario de quelqu'un d'autre, et je crois que l'histoire n'était pas très, très intéressante non plus.
Non.
Et je dirais que c'est même un peu grâce à cela que Tintin est né par la suite. Mais cette aventure-là n'a pas fait long feu.
Non, je crois que, bon, il était jeune dessinateur, et au fond, il n'était pas encore dirigé vers la bande dessinée, il faisait dessiner, illustrer, alors oui, on lui demandait des tas de choses, commençait parce que, bon, on dit oui, parce qu'on me le demande, je le fais, mais dans le fond, il n'aimait pas ça, mais il ne savait pas quoi.
En fait, Hergé aurait rêvé, je crois, comme la plupart des jeunes journalistes de son époque, il rêvait de devenir un grand reporter à l'image de Joseph Kessel, d'Albert Londres. C'était, je crois, le rêve de tout jeune journaliste de l'époque.
Mm-hmm. J'ai vu des cartes postales qu'il a faites à l'époque. Qu'est-ce qu'il faisait encore d'autre au XXe siècle ?
Il faisait beaucoup de choses. Il illustrait. On lui a confié les illustrations des suppléments littéraires féminins. Donc il faisait des petites illustrations. Ça a été les premières responsabilités qu'on lui a données au XXe siècle.
Oui,
c'était donc le XXe siècle, mais c'était des suppléments bien avant la naissance du petit XXe.
Et ce qui est curieux, c'est que ça prouve, je crois, qu'il cherchait la route à suivre, c'est que dans ses illustrations, il y avait des dessins avec des ombres qu'il ne fait plus jamais. C'est-à-dire des dessins réalistes, peints dans ce trait qui
fait
la ligne claire, comme on dit maintenant. Mais il attaquait plusieurs genres.
Une chose qu'il faut dire quand même, qui est assez amusante, c'est, je vous disais tout à l'heure, qu'Hergé était pratiquement tout le temps, chaque année, premier de sa classe, si pas premier dans les premiers, certainement. Mais il y a une matière dans laquelle il a eu beaucoup de difficultés à obtenir la moitié des points, c'est le dessin, justement.
Mais je crois que c'est toujours comme ça. C'est que le dessin dans les écoles, quand on crée quelque chose, mais ce n'est pas beau, mais on l'a créé, on n'a pas copié. Bon, on a pas assez de points, tandis qu'on copie, on vous impose quelque chose. Alors là, c'est magnifique, c'est bien. Mais l'initiative, ça, on ne donne pas grand-chose pour ça.
D'ailleurs, ses parents avaient décidé de... Je crois que ses parents ont quand même joué un rôle dans sa vie, puisqu'ils avaient même décidé de lui faire suivre des cours de dessin. Donc, ils avaient senti ce talent, et ils l'avaient inscrit à Saint-Luc. Et je crois qu'il est allé une seule fois à Saint-Luc.
Une heure, oui.
Il est arrivé, on l'a mis devant un chapiteau corinthien en plâtre, qu'il a dû reproduire, qu'il devait reproduire.
Prodigieusement ennuyé.
Il n'est jamais retourné à Saint-Luc.
Ce qui est bien la preuve que les études de bande dessinée ne servent à rien.
Il ne faut pas dire ça.
Il va être content, l'atelier.
Non, je crois, Hergé le dit lui-même, de toute manière, le dessin... Maintenant, peut-être Bob en parlera mieux que moi, c'est évident. Mais le dessin, on apprend à dessiner en dessinant beaucoup, en dessinant toujours et sans cesse, et en faisant des croquis. Effectivement, il faut acquérir une certaine technique au départ. Mais Hergé, par exemple, n'a suivi aucun cours de dessin.
Mais
il dessinait depuis qu'il était tout petit. Il regardait autour de lui, il observait.
Il regardait autour de lui
et essayait de reproduire.
C'est lui-même, on ne devait pas lui dire, mais pour la perspective, par exemple, bon, c'était difficile, il ne savait pas très bien quoi faire. Eh bien, il achetait des livres où était expliqué comment il fallait, construire un paysage, par exemple, avec une ligne d'horizon, tout ça, bon, il savait à peu près, mais il se perfectionnait lui-même. Il n'allait pas demander ça quelque part ou ne suivait pas un cours pour ça. Il suivait ses cours chez lui. C'était lui-même son professeur.
première grande série, du moins premier grand album de Tintin, c'est Tintin au pays des Soviets. Alors j'ai interviewé Paul Hermann qui a essayé de retrouver les influences culturelles qui ont amené les premiers Tintins, entre autres donc ces Soviets, et puis qui a aussi essayé de présenter les œuvres annexes d'Hergé au petit XXe. On va l'entendre maintenant.
Années 20 était marqué par une obsession occidentale ou un intérêt très très poussé pour tout ce qui se passait en Union soviétique. Et donc il y avait deux types de livres qui paraissaient à l'époque. Il y avait ceux qui étaient tout à fait dithyrambiques et qui portaient les réalisations de la jeune ce jeune pays bolchevique au sommet, et les autres qui, bien entendu, les décriaient. Je dirais qu'il y a une quinzaine d'années, on a connu la même chose avec la Chine, où tout le monde, tous les grands politiciens, les journalistes, les penseurs, y ont été de leurs bouquins sur la Chine, des universitaires comme Charles Bethlehem, ou bon, des écrivains français, et tout le monde a vu dans le modèle chinois une solution pour notre société. Donc je pense que dans les années 20, c'est la même chose. On s'emballe pour l'Union soviétique, mais on s'emballe pour un pays sans l'analyser avec nuance. Alors ça nous donne des livres très très curieux. Il y a un bouquin de Gaston Leroux qui s'appelle L'agonie de la Russie blanche, qui lui aussi, alors là il prend parti bien entendu pour les tenants du tsarisme, et il décrit l'Union soviétique ensanglantée avec les pogroms qui commencent, etc. Bon, ce qui était aussi vrai, mais enfin il n'en voit pas les autres aspects, qui étaient peut-être aussi une lutte contre la misère, la faim qui existait depuis la moitié du 19e siècle, si pas avant. Alors, le bouquin, finalement, dont lequel Hergé puis sa documentation, est outrancier, mais il n'est pas toujours. C'est assez curieux. C'est-à-dire que, véritablement, c'est la vision donc d'un ancien consul belge qui a effectivement vécu en Union soviétique et qui a aussi vécu en Russie tsariste, plus longtemps en Russie tsariste qu'en Union soviétique, et qui, bien entendu, comme tous les diplomates de l'époque, avait les préférences pour le régime précédent. Alors c'est plutôt un peu ces regrets-là qu'on ressent dans ces livres, c'est une description de ce qu'était telle ville et de ce qu'elle est devenue. Hein, dire, bon, ben, les mendiants sont dans la rue, alors qu'avant il y en avait peut-être aussi, mais enfin au moins l'armée les faisait disparaître quelque part, quoi. Il y a évidemment la fameuse scène des élections où les communistes imposent leur seule liste avec les revolvers pour obliger la foule à voter pour eux. Donc là, elle est décrite entièrement dans le livre. Maintenant, est-elle réelle, n'est-elle pas réelle? Là, il faudrait faire vraiment une analyse d'historien et reprendre toute une documentation de l'époque pour savoir si oui ou non ça se passait ainsi. Et donc Hergé, et là c'est peut-être l'influence qu'on a parlé avant, a reçu ce livre des gens de la rédaction du XXe siècle qui ont dit, ben voilà, il faut faire une histoire dans ce pays-là, puisque c'était le pays à la mode, eh bien, oui, mais attention, il faudrait une documentation, ben, ce bouquin est ici, en avant, lisez-le et tirez-en quelque chose, quoi, tout simplement. Donc je crois que finalement, la vision de Tintin au pays des Soviets est de fait l'exploitation par Hergé d'un texte qui devait à l'époque être fort répandu, parce que l'on trouve encore donc chez les bouquinistes plusieurs éditions de ce livre qui a connu un assez fort tirage. Je dirais même qui a connu certainement un tirage plus important que Tintin au pays des Soviets à l'époque.